La prédication de ce matin s'inscrit dans la continuité de notre parcours actuel en chemin vers Pâques. Et je l'ai intitulé Vivre et bénir, même en terre. Claire nous a lu le texte de ce matin. Dimanche dernier, nous avons commencé notre semaine vers Pâques en nous mettant à l'écoute de Dieu, dans le silence et dans la disponibilité. J'imagine que certains ont poursuivi dans la semaine l'expérience de dimanche dernier, simplement être avec lui dans le silence, l'écoute et la disponibilité. À l'image de ce que Marie a fait dans le texte que Laurent nous a lu dimanche dernier. Et ça, c'est super. Après avoir pris le temps d'écouter Dieu dans le silence, Dieu nous appelle à transformer cette écoute en geste concret. Même lorsque nos circonstances semblent défavorables. Écouter Dieu nous invite aussi à agir. La parole reçue doit prendre vie dans notre quotidien, jusque dans notre vie, à l'exemple du texte que nous allons lire ce matin de Jérémie 29, verset 4 à 7. Eh bien, ça alors, c'est fou. Je ne m'attendais pas à cela. C'est, je crois, le cri du cœur quand la vie refuse de suivre nos plans. C'est le cri que nous avons dans le cœur. Nous avons tous un plan A, une carrière linéaire, une famille en bonne santé, des projets qui évoluent sans trop de problèmes, une église vivante, une église dynamique. Mais ce matin, le prophète Jérémie nous amène à Babylone, là où le plan A d'Israël a volé en éclat. Imaginez les gens. Ils avaient prévu la sécurité, ils ont reçu l'invasion. Ils avaient prévu la louange au temple, ils ont reçu le silence, la déportation. Leur réalité défie leur plan de manière la plus brutale du monde. Ils sont là, je les imagine au nord des fleuves de Babylone, entretenus dans leur illusion par de faux prophètes qui leur annonçaient un retour prochain à quelque chose de merveilleux. Et ils refusaient d'entreprendre quoi que ce soit en vue d'un établissement durable sur la terre étrangère d'Israël. Et c'est précisément là, au milieu de leur décombre, que Dieu leur envoie une lettre qui va tout changer. Une lettre qui nous parle encore aujourd'hui, au cœur de ce que chacun de nous pouvons vivre. Et nous, comment réagissons-nous lorsque nos plans s'effondrent? Sommes-nous prêts à accueillir la lettre de Dieu dans nos décombres? Quelles sont les paroles de Jérémie que Claire nous a lues ce matin? Jérémie 29, versets 4 à 7, non seulement touché nos cœurs, mais aussi inspiré nos choix et nos attitudes là où Dieu nous place, là où nous sommes. Je vous invite à lire ensemble, relire ensemble ce texte. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez du vin. Plantez des jardins et menez manger, mangez-en les légumes. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos enfants et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas. Et ne laissez pas diminuer votre nom. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa propre prospérité dépend la vie. La première chose que cette lettre vient bousculer, c'est notre sentiment d'abandon. Avant de nous dire quoi faire, Dieu commence par nous rappeler que c'est lui qui tient les rênes, c'est lui qui est aux commandes. C'est le premier choc de ce texte. Dieu est souverain, même quand nous sommes perdus. Dieu est souverain, même quand nous sommes perdus. Le premier mot de cette lettre n'est pas une excuse. C'est une signature. Si vous regardez, vous avez votre Bible, vous regardez le verset 4, Dieu ne dit pas « Je suis désolé pour ce qui vous arrive ». Il dit « À tous les exilés que j'ai fait déporter ». C'est le premier choc de ce texte. Israël pensait être la victime de la puissance militaire de Babylone. Il pensait être le jouet d'une géopolitique cruelle, mais Dieu reprend le nouveau exil. C'est moi qui tiens mes rêves. Ce n'est pas la boucle de nos hommes qui a le dernier mot. Ce n'est pas le chaos qui dirige votre exil. Ce n'est pas la politique, ni la malchance, ni les ennemis. C'est Dieu. Dieu. Même à Babylone, Dieu n'a pas perdu le contrôle de la défense. Il n'est pas en train de mourir après les événements. Il est celui qui traverse les événements de son âme. Quand la situation ressemble à l'exil, quand un deuil frappe, qu'une rupture brise tes rêves ou une maladie s'installe, la tentation de croire que Dieu a quitté la scène. Mais la vérité biblique est radicale. Dieu n'est pas absent de Dieu. Parfois, nous crions à la catastrophe alors que Dieu prépare une transition. Si ta réalité est différente aujourd'hui, souviens-toi que rien. Mais rien ne définit le temps de Dieu. Il est souverain sur le temps. Il est souverain sur ton monde. Mais attention, accepter que Dieu soit souverain ne signifie pas que s'asseoir et attendre que ça se passe. Si Dieu tient le contrôle, cela change radicalement notre manière de vivre le temps présent. Puisque Dieu est là, à Babylone, alors il n'y a plus aucune raison de mettre notre vie sur pause. C'est pourquoi Dieu nous lance le défi ce matin. Arrête d'attendre que nous changions pour commencer à arrête d'attendre que nous changions pour commencer à la suite de la lettre de Jérémie au peuple déporté est encore plus surprenante. Humainement, on s'attend que Dieu dise soyez patient, tenez bon, tenez ferme. Je viens vous chercher bientôt dans un jour, je vais vous dire, je vous tirer de là. Mais regardez les verbes d'action qui sont dans ce texte. Si vous l'avez, je vous invite à le voir. C'est une batterie d'impératifs. Bâtissez, plantez, mariez-vous, multipliez-vous. En substance, Dieu leur dit, ne suspendez pas votre vie en attendant que les journées. Ne jugez pas vos pauvres. C'est une remise en question totale pour les églises. Avec ce qu'ils attendaient les prophètes de l'époque, ils vivaient les valises à la main, les yeux fixés à l'horizon, refusant de s'attacher à ces terres étrangères. Et Dieu leur demande d'investir, construire, de s'enraciner, planter des jardins, de fonder des familles. Préparer l'avenir. Ce n'est pas un kit de survie. C'est un plan d'implantation. C'est ton âme. Le message fort ici, c'est le suivant. Si Dieu ne t'a pas sorti de Babylone, c'est peut-être qu'il veut te faire prospérer à Babylone. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège. De temps suivi de alors. Quand j'aurai un point de poste, je serai généreux. Quand ma situation familiale sera stable, je m'engagerai. Quand je serai guéri, je commencerai à témoigner. Quand je serai à la retraite, je servirai le Seigneur. Et Dieu lui dit ce matin, commence là où tu es. N'attends pas que le décor soit parfait pour être fidèle. N'attends pas que la tempête se calme pour planter ton jardin. Si tu attends un contexte idéal pour servir, crois que tu ne le serviras jamais, car le monde est imparfait. Ta fécondité ne dépend pas de la géographie, ni de là où tu es, elle dépend de ton obéissance. Si Dieu t'a placé là où tu es aujourd'hui, même si c'est un travail difficile, même si c'est un quartier difficile, un endroit que tu n'aimes pas, ou une situation qui te plaît, c'est là que Dieu veut te voir passer. Mais le projet de Dieu ne s'arrête pas à votre jardin, à notre jardin, à notre maison. Il ne nous demande pas seulement de réussir dans notre petite vie en terre étrangère. Il nous demande quelque chose de beaucoup plus audacieux. Quelque chose qui va à l'encontre de tout instinct de protection. Il nous demande de nous tourner vers le temps. Après nous avoir dit de bâtir pour nous, il nous appelle à rechercher la paix de la vie. Rechercher la paix de la vie. C'est ce qui nous renvoie le verset 7. Et c'est ici que le message de Jérémie devient véritablement radical. Parce que c'est choquant. Écoutez bien ce verset. Si vous l'avez, vous avez qu'à l'heure. Recherchez le bien-être de la vie où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur. J'ai été chercher dans la version de la Bible de Darby, qui traduit ce verset 7 comme dit « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel. » Rappelons le contexte. Babylone n'est pas une colonie de vacances, c'est l'oppresseur. C'est la puissance qui a brûlé leur temps, qui a dévasté leur terre, mais c'est une ville païenne, corrompue, et qui est très violente. Pourtant, Dieu ne leur demande pas de préparer une révolte, ni de maudire leurs voisins, ni de s'isoler dans un ghetto spirituel pour ne pas se souiller. Il leur demande d'initier. Travailler pour le bien de la ville. Chercher la paix de la ville et Dieu demande à son peuple d'être source de paix, d'être source de chaleur. Ah, je me souviens aussi, j'avais cherché le mot chaleur, ce que ça disait dans la Bible. Je pensais à de Richard, c'est un mot merveilleux. Mais je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Mais Dieu nous demande d'être une source de bénédiction dans un système qui ne partage pas ses valeurs. La question pourquoi est monumentale. Nous vivons dans une société qui ne reflète pas toujours nos conditions chrétiennes. Parfois, nous sentons en exil, dans notre propre culture, et la tentation est grande de se plaindre, d'aller sur les réseaux sociaux, de se réplier sur nous-mêmes. Mais le mandat de Dieu n'a pas changé. Nous ne sommes pas appelés à fuir le monde, ni à le haïr, ni à essayer de le dominer par la force. Nous sommes appelés à bénir. Si tu es chrétien, dans une entreprise difficile, sois celui qui apporte la paix dans les réunions tendues. Si tu vis dans un quartier dégradé, soit celui qui se soucie de la propreté, de l'entraide et du sourire. Quand je disais ça, ça me faisait penser à Marianne. Une fois, c'est arrivé, elle dit, trouve un bout de papier, ça va me faire plus grand, je mets dans la poubelle. Soyons des chrétiens qui, ouais, si je suis dans le quartier, c'est ça, je vais te râler. Si tu es étudiant dans un environnement difficile, sois celui qui apporte la paix et l'équipe. Ta mission n'est pas de juger Babylone. Ta mission est d'être un canal par lequel la grâce de Dieu coule sur Babylone. Mais bien, je fais encore plus profond que la paix de Dieu. C'est la paix du cœur. Peut-être pour quelqu'un ce matin, le premier pas est simplement de découvrir celui qui donne la paix à Dieu. Recherchez le bien-être et priez l'Éternel en sa faveur. C'est la règle de conduite qui sera plus tard donnée aux chrétiens par rapport à l'État. Dans lequel on vit, et que nous lisons dans 1 Timothée 2, verset 1 à 2, qui dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en communauté, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. On pourrait se demander, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi devrais-je m'investir dans ma vie? La réponse de Dieu est le réalisme désarmant. Il lie notre survie à celle de la vie. Et c'est la fin de ce verset 7. Notre paix dépend de celle de la vie. Notre paix dépend de là où nous sommes. Votre paix dépend de la sienne. Un après pour changer. Le chrétien est un étranger sur la terre. Parce que nous aurons l'enseigne la vie. Il attend l'accomplissement de la promesse qui l'introduira dans sa vraie terre. Et dans ce sens, notre paix dépend de celle de la ville de Saint-Denis. Elle dépend de là où nous vivons. On le comprend, parce que nous sommes étrangers. Imaginez que vous êtes dans une pièce glaciale, en plein hiver, de Savoie. Et vous avez un petit radiateur, personne. On peut illustrer ici comme votre toit, votre église. Et vous vous serrez contre lui pour rester au chaud. C'est confortable. Mais dès que vous vous éloignez de quelques centimètres, vous voyez que ce confort est illusoire si la pièce reste froide. Dieu ne veut pas simplement que nous rechauffons notre être, que nous rechauffons entre nous. Il nous appelle à ouvrir les vannes et à répandre la chaleur dans la ville, dans la pièce, là où nous vivons. Si Chambéry est en paix, notre foyer sera en paix. Ne chauffons pas que pour nous, mais chauffons pour la vie. Ne gardons pas la chaleur pour nous, pas pour nous. Soyons comme des radiateurs dans notre quartier. Le foyer est dans notre vie. Dieu conclut par cette vérité importante, car de combien dépend le bon. Dieu lie notre destinée à celle de ceux qui nous entourent. Notre destinée est donc liée à ceux qui nous entourent, et c'est une invitation à transformer radicalement notre regard sur notre destinée. Dieu nous demande d'aimer Chambéry. Dieu nous demande d'aimer Estienne. Il nous demande d'aimer là où nous voulons, dans nos cerveaux, là où nous voulons. Mais d'aimer réellement les habitants. Avec leurs défis, leurs doutes et leurs besoins. Dire Chambéry, je t'aime. Plus qu'un slogan, c'est notre mission. Aimer la ville, c'est prier pour elle. Car il est impossible de mépriser ce pourquoi on est quand vous passez devant la mairie, devant une mairie, devant la gare, ou devant une rue du Violet ou de Chambéry-le-Haut, est-ce que votre cœur dit Seigneur? Aimer la vie, c'est y investir nos dons. Pas que le don financier. C'est y investir nos talents. C'est ne pas rester enfermé sur notre orgueil. Dieu nous donne des dons pour rendre Chambéry plus juste, plus belle et plus humaine. Dieu nous envoie aimer la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons souvent tendance à nous replier sur notre propre confort, sur notre famille. Mais Dieu nous bouscule en disant, si la vie va bien, tu iras bien. Chercher le bien commun, c'est s'investir, c'est être un voisin exemplaire, c'est soutenir ce qui est beau et puissant. Si notre Église disparaissait demain, est-ce que les habitants de notre quartier, les habitants de Chambéry sentiraient la ville? Est-ce que la ville y perdrait une source de paix? Rechercher le chaleur, rechercher la paix, c'est devenir indispensable au bien commun. Le mépris ferme les portes. La peur dirige les murs. Dieu nous appelle à aimer au lieu de critiquer. Essayons de cultiver la bienveillance. Soyons conscients des vrais besoins. Le shalom, la paix de Chambéry, c'est aussi notre responsabilité. Cette invitation nous ramène au verset 4 de tout le livre. À tous les exilés que j'ai fait défendre. Il nous rappelle encore la souveraineté de Dieu, même en exil. Souvent, comme chrétiens, nous vivons avec nos valises à la main, mais pas comme dans le bon sens du livre. On se dit que ce monde est hostile, que nous sommes de passage, et on finit par vivre à moitié, en attendant que les choses se passent. On survit au lieu de vivre. On pense avoir fait le tour de notre quartier, de notre travail, de notre église. On rêve d'un ailleurs meilleur, plus facile. Dieu nous dit aussi, aux exilés, à Babylone, comme aujourd'hui, ils nous disent, ne fuyez pas l'hostilité par l'isolement, par l'inaction. Nous sommes appelés à être les résidents engagés. Dieu ne nous demande pas de tolérer son défi en attendant quelque chose de meilleur. Il nous demande de nous y enraciner, de s'installer, de planter, de bâtir, c'est un acte de foi, un acte de foi de celui qui sait que l'éternité est la vie, et que le terrain de sa mission est ici et maintenant. Ne soyons pas des touristes spirituels de Chambéry. Ne soyons pas des touristes spirituels de l'Église de cette fois. Soyons des ambassadeurs en résidence. Vous savez, le touriste, il consomme et repart. L'ambassadeur représente sa famille. Il représente son pays dans un territoire qui n'est pas le sien, mais ici, avec l'Italie. Si le mépris de la vie vous a été appel, prenez-le comme vous êtes étrangers, nous sommes tous étrangers, ou de passage, là où vous êtes aujourd'hui. Mais c'est pour être porteur d'une mission auprès de cette maison, de votre quartier, dans votre ville, dans Chambéry. Construisez, plantez, aimer et bénissez. Même en terre étrangère, Dieu prépare un avenir d'espérance. Concrètement, je vous laisse deux défis pour cette saison. Le premier, c'est le défi du regard. quand vous marchez dans son désert, ou là où vous vivez, arrêtez-vous devant la maison, devant l'école, la gare, le quartier, et prenez 10 secondes. Seigneur, que ton shalom soit sur ce lieu. Comme nous l'avons chanté ce matin, que ton nom résonne dans ces lieux. Résonne dans notre vie. Résonne dans notre vie. Le deuxième type d'écrit, c'est celui de la mettre en vue. Repérer un voisin, un collègue qui vous avez tendance à éviter ou à critiquer. Allez vers lui, ne lui faites pas un grand serment. Demandez-lui juste, comment vas-tu vraiment? Est-ce que je peux t'aider pour quelque chose? Soyez celui qui apporte la paix là où il y a de, que de la vie. N'oublions jamais la paix de Chambéry, la paix de là où nous vivons, la paix de notre vie, vive par nous, c'est aussi la nôtre. Soyons les bâtisseurs de cette paix, dès maintenant. Je vous invite à parler. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui appelle, tu es le Dieu qui envoie et tu es le Dieu qui
aide.
Seigneur, nous te prions de nous éviter. Merci pour ton église, chère église. Merci pour chaque personne, pour les noms que tu as déposés dans chaque. Parfois discret, parfois encore caché. Et Seigneur, nous te remercions d'être ce Dieu souverain de nos vies. Et nous voulons en de nous demander aussi des questions. Nous prions, pardon pour nos peurs, et pardon pour nos replis sur ce monde d'être. Relève-nous de ce que tu veux que nous faisions, aide-nous à œuvrer pour nous. Donne-nous un cœur disponible, un esprit d'humilité et la joie de te servir ensemble dans cette ville et dans cette ville. Seigneur, apprends-nous à chercher la paix de notre vie. À aimer ce qui nous entoure et à être les lumières là où tu nous as placés. Père, continue, nous partons pour un esprit saint dans les semaines qui viennent, afin que nous discernions ensemble les œuvres que tu as préparées, que nos vies portent des fruits à nous. Que beaucoup découvrent ton amour au travers de ton vie. Je le demande dans un nom précieux. Amen. Je dis que le groupe de l'Orange a
repris bien. Je me suis dit que je suis là.